Le journal.
Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Quatre islamistes soupçonnés de préparer un attentat ont été arrêtés aujourd'hui en région parisienne. On ignore ce soir le degré de préparation de ce commando. Les explications d'Olivier Bois dans un instant. L'Union européenne et la Turquie négocient demain à Bruxelles un accord sur la crise migratoire. Accord déjà contesté de toutes parts. Nous en parlerons avec notre invitée, la journaliste et blogueuse Coralie Delhomme, auteure d'un livre sur les États des Unis d'Europe. Aux États-Unis, panique chez les Républicains. Face au succès de Donald Trump, plusieurs responsables du parti comptent désormais sur le sénateur de l'Ohio, John Kasich, pour barrer la route aux milliardaires. Le niveau de la menace reste élevé. Voilà le premier commentaire de François Hollande après l'arrestation ce matin de quatre islamistes radicaux en région parisienne. Trois hommes et une femme soupçonnés de préparer une attaque, sans doute à Paris. Pour TF1, le passage à l'acte était imminent, ce que ne confirment pas les autorités. On fait le point sur l'enquête avec Olivier Bois.
Ce sont des gens potentiellement dangereux qui ont été arrêtés ce matin par la DGSI. Les enquêteurs craignaient la possibilité qu'ils ne passent à l'action. Voilà pourquoi on parle de menaces potentiellement imminentes. Même si une source policière nous indique ce soir qu'il est trop tôt pour parler de projets d'attentats précis et datés. Ce sont trois hommes et une femme qui ont été arrêtés ce matin, tous connus pour leur lien avec l'islam radical. Deux frères d'origine turque arrêtés dans le 18e. Ils étaient en contact avec un homme jugé pour le coup plus dangereux. Un certain Youssef, un homme de 28 ans, très connu des services. Il a été arrêté, lui, en Seine-Saint-Denis avec sa compagne. Il a déjà été condamné en mars 2014 à 5 ans de prison parce qu'il avait cherché à partir en Syrie. Il était sorti en octobre 2015. Toujours considéré comme dangereux, il avait été assigné à résidence dans le cadre de l'état d'urgence. La DGSI a préféré intervenir, les arrêter au cas où, parce qu'il y a effectivement des éléments pour estimer qu'ils représentaient une menace. Mais encore une fois, on ne connaît ni leur niveau de préparation ni leur capacité réelle à passer à l'action. Aucune arme lourde, par exemple, n'a été retrouvée en perquisition. Les ordinateurs ont été saisis, il faut maintenant les exploiter et ces quatre personnes sont en garde à vue, potentiellement jusqu'à dimanche matin.
Olivier Bois, la menace terroriste qui touche aussi la Belgique. Deux hommes restent en fuite ce soir après la fusillade survenue hier dans la commune bruxelloise de Forêt. Un troisième homme a été tué par les policiers belges. Il a été identifié. Il s'agit d'un clandestin algérien qui n'était pas connu des services antiterroristes, mais les enquêteurs ont retrouvé à côté de son corps une Kalachnikov et un drapeau de l'État islamique. Quatre policiers, dont une Française, ont été blessés lors de cette fusillade, survenue au cours d'une perquisition en lien avec les attentats de Paris. C'est dans ce contexte de pression terroriste permanente que Jean-Yves Le Drian a présenté aujourd'hui à l'Assemblée les nouvelles missions de l'armée sur le sol français. Pour le ministre de la Défense, les attentats de 2015 ont changé la donne. Les militaires ne peuvent plus être de simples supplétifs des policiers et des gendarmes. Le reportage à l'Assemblée de Catherine Dutu.
Parce que la France fait face à un danger sans précédent, les députés ont d'une même voix, presque dans un esprit d'union nationale, partagé le diagnostic posé en préambule des débats par le ministre de la Défense. Jean-Yves Le Drian veut une articulation plus resserrée entre la sécurité intérieure et la défense extérieure.
Les groupes terroristes sont maintenant véritablement militarisés, quasiment professionnalisés et mènent des actions de type commando à grande échelle, comme l'ont montré les attentats du 13 novembre 2015. Cette menace omniprésente vise explicitement à reproduire sur le territoire national de véritables actions de guerre.
Le ministre de la Défense appelle donc l'opération Sentinelle à durer autant que nécessaire. Plus de 70 000 soldats se sont déjà succédés dans cette mission depuis l'an dernier, souvent pour des gardes statiques devant des synagogues, des écoles ou encore des mosquées. Désormais, Jean-Yves Le Drian propose de les faire évoluer en patrouille ainsi que de les impliquer encore plus dans le renseignement à but opérationnel. Pas de collecte d'informations à des fins judiciaires, c'est une ligne rouge du gouvernement. Le député écologiste Sergio Coronado s'est lui inquiété de la réforme en cours de la procédure pénale. Elle concernera également les militaires.
Une fois la loi adoptée, l'usage des armes limité jusque-là à la légitime défense serait ainsi étendu, comme pour les policiers et les gendarmes, à l'état de nécessité lors de la poursuite d'un individu ayant déjà commis un ou plusieurs homicides. Ce point heurte car autoriser les soldats à ouvrir le feu sur des cibles terroristes au milieu d'une foule, ce n'est pas à l'origine leur métier. Les militaires opèrent en zone de guerre. Sur le sol national, les contraintes ne sont évidemment pas les mêmes.
Jean-Yves Le Drian promet que les militaires engagés sur le territoire national devront scrupuleusement respecter l'état de nécessité dans le cadre d'un périple meurtrier, c'est-à-dire si un ou plusieurs individus tentaient de commettre plusieurs homicides.
Catherine Dutu, merci. L'Union européenne et la Turquie vont-elles parvenir à un accord sur la crise migratoire? C'est tout l'enjeu du sommet de Bruxelles. Demain, sur la table, un projet initié par Angela Merkel. La Turquie s'engage à reprendre les migrants arrivés en Grèce. En échange de quoi, l'UE s'engage à accueillir le même nombre de réfugiés sur son sol. Mais les Turcs posent leurs conditions. Ils veulent 6 milliards d'euros et une exemption de visa pour leurs ressortissants. Aujourd'hui, au Bundestag, à Berlin, la chancelière allemande a tenté de rassurer les députés inquiets face aux exigences d'Ankara. On retrouve notre correspondant en Allemagne, Cyril Sauvageau.
Pour la première fois, une solution durable est peut-être à portée de main. C'est la conviction d'Angela Merkel. Une solution, mais pas à n'importe quel prix. Les concessions européennes devront avoir leur contrepartie, a dit la chancelière devant le Bundestag. Le fait que la Turquie demande une aide financière plus importante me paraît tout à fait justifié. Mais il est essentiel que cet argent aille à des projets utiles, logements, écoles ou soins médicaux. Pas de chèque en blanc pour Ankara, l'Europe sera vigilante et doit rester ferme sur ses principes, droits de l'homme et liberté de la presse. Fermeté également sur la question des visas, la Turquie devra respecter tous les critères en vigueur. Enfin, sur le processus d'adhésion à l'Union européenne, là aussi, la chancelière se veut rassurante. Si les négociations devaient être débloquées, elles continueraient à être menées avec une issue ouverte. Et donc l'adhésion de la Turquie n'est pas à l'ordre du jour.
Voilà Angela Merkel devant le Bundestag à Berlin. Invitée de ce journal, la journaliste et blogueuse Coralie Delhomme, auteure d'un ouvrage sur les fractures européennes, Europe, les États des Unis. Bonsoir.
Bonsoir.
Coralie Delhomme, un accord vous semble-t-il possible demain à Bruxelles quand on sait qu'il suscite déjà l'hostilité de pas mal de monde, notamment les ONG et les populistes?
Oui, alors les ONG c'est sûr, un certain nombre de juristes également. Après je ne sais pas ce que vous appelez les populistes, en tout cas ils suscitent des inquiétudes de la part de la France sur la question de la suppression des visas pour les ressortissants turcs. Parce que la Turquie ne remplit pas toutes les conditions. Et il suscite surtout l'inquiétude de Chypre, qui a menacé de mettre son veto. Et Chypre en a la possibilité, parce qu'elle a le droit de veto, comme tous les autres pays. Et la question est très compliquée pour Chypre, parce que c'est certes un petit pays, mais c'est le pays le plus exposé en la circonstance. Et c'est Chypre qui bloque depuis un moment la réouverture des négociations avec la Turquie.
Alors, les populistes, ce sont notamment les pays de l'Est, le régime hongrois, Viktor Orban, qui dénonce une sorte de chantage exercé par Ankara.
Mais il y a incontestablement une sorte de chantage. Il y a une sorte de chantage. Ankara utilise cet argument migratoire pour obtenir de plus en plus de concessions de l'Union européenne. Et il y a quand même des chances qu'il aille au bout de sa possibilité, c'est-à-dire sur la question des visas notamment, et puis sur l'aide financière.
Et l'Europe n'a pas les moyens de s'opposer à ce chantage?
Le problème, c'est que d'abord, l'Europe a une façon très éclatée de réagir et que il y a eu au départ, du coup, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que Angela Merkel négocie seule avec la Turquie, mais au départ, du coup, elle a été seule aussi lorsqu'elle a déclaré qu'elle accueillerait sans limite les migrants provenant des pays en guerre. Et il y a eu un comportement un peu unilatéraliste qui est assez fréquent dans le cas de l'Allemagne. On l'avait vu aussi sur la crise grecque. Une certaine façon de procéder un peu sans concertation et qui finit par générer beaucoup de cacophonie. Et aujourd'hui, Merkel est là un peu à essayer de rattraper le coup, mais c'est compliqué parce que ça a créé des réactions en chaîne avec notamment le problème de des frontières qui se sont fermées en cascade sur la route des Balkans, l'Autriche qui a instauré des quotas, etc. Alors que l'Autriche elle-même était le pays qui était le plus favorable aux positions allemandes au départ.
Et selon vous, Coralie Delhomme, Angela Merkel est aujourd'hui isolée au sein de l'Union européenne ?
Relativement. Elle a avec elle le Premier ministre néerlandais qui assure la présidence tournante de l'UE. C'est avec lui qu'elle a négocié avec les Turcs, principalement. Et de manière un peu paradoxale, s'il y a un pays qui a intérêt à voir cet accord se faire, c'est la Grèce. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce pays-là qui est en train de devenir un cul-de-sac pour les migrants et qui est en train de devenir et qui deviendra à terme, si on ne trouve pas de solution, un Calais géant, en fait.
En même temps, on peut peut-être aussi comprendre la position turque, sachant que la Turquie accueille déjà des centaines de milliers de réfugiés syriens et Ankara qui demande à l'Europe de prendre sa part dans l'effort international pour accueillir les réfugiés.
Oui, mais la Turquie, ils ont joué un jeu très 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 ambigu dès le départ dans l'affaire syrienne. Au départ, ils ont accueilli bien volontiers des réfugiés parce qu'ils estimaient que la guerre serait courte et ils ont misé sur l'effondrement du régime syrien. Et en fait, ils ont fait le mauvais pari parce que le régime syrien, il est toujours là. Et là, maintenant, effectivement, ils sont un peu débordés. Ça a été leur choix diplomatique. Il y a eu aussi le choix... Alors là, encore plus critiquable, qui a été de servir de voie de passage aux djihadistes à l'aller comme retour.
Coralie Delhomme, est-ce que l'on peut parler aujourd'hui d'un risque d'éclatement de l'Union européenne face à la crise migratoire ou bien faut-il y voir un début de recomposition ?
Moi, j'y verrais un des éléments d'une crise qui est multiforme parce que c'est pas le seul élément, il y a le problème économique. La crise de l'euro, on la passe un peu sous silence en ce moment, mais il n'est pas impossible qu'elle se réveille, s'il y a des secousses sur les marchés financiers notamment. Il y a à venir le référendum sur la sortie ou pas de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Il y a une crise démocratique qui est patente, on le voit bien, les partis critiques, parfois même d'extrême droite, sont de plus en plus puissants. Donc il y a véritablement une crise démocratique dans de très nombreux pays de l'Union, avec des pays qui deviennent même presque ingouvernables.
D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup Coralie Delhomme d'avoir été l'invitée de France Culture. Je renvoie à votre livre « Europe, les États des Unis », un ouvrage paru en 2014 aux éditions Michalon. Aux États-Unis, c'est Donald Trump qui semble incarner aujourd'hui la vague populiste qui touche les pays occidentaux. Le milliardaire est sorti renforcé du Super Tuesday en remportant au moins 3 des 5 États en jeu hier. Il pourrait aussi s'adjuger le Missouri dont on attend encore les résultats définitifs. Donald Trump est aujourd'hui largement en tête chez les Républicains devant Ted Cruz et John Kasich. Marco Rubio, lui, a jeté l'éponge après son échec chez lui en Floride. Alors la perspective de voir Trump remporter l'investiture en juillet affole l'état-major du parti républicain et plusieurs chefs du parti comptent désormais sur John Kasich pour lui barrer la route. Le sénateur de l'Ohio qui s'est imposé hier chez lui face au milliardaire. La correspondance à Washington de Frédéric Carbone.
Il y a quelques semaines, John Kasich était le symbole de la dispersion des voix chez les Républicains, le candidat de trop pour un front uni anti-Donald Trump. Aujourd'hui, en emportant les 66 délégués de l'Ohio, il prive le milliardaire d'un matelas de voix qui pourrait lui manquer cruellement. John Kasich va ainsi poursuivre sa campagne positive. Il va rester celui qui ne s'en prend pas aux autres, qui défend son bilan de gouverneur et qui rappelle qu'il est le seul candidat à avoir travaillé avec l'icône Ronald Reagan, bref l'adulte au milieu de la cour de récréation, comme il l'avait dit lors d'un débat télévisé. Le calcul de Kasich, c'est que si Donald Trump n'a pas la majorité absolue des délégués, les cartes sont rebattues à la convention et il pourrait être le candidat de consensus, battu partout ou presque, mais vainqueur au final. Un scénario que Trump rejette avec son habituel sens de la mesure. Il prédit des émeutes s'il est en tête mais pas désigné. Voilà les millions d'électeurs dont il parle tout le temps, transformés en bataillons en ordre de marche. Pour Trump, c'est donc moi ou le chaos. Pour l'instant, c'est lui et le chaos chez les Républicains.
Frédéric Carbone, notre correspondant aux États-Unis. Au Brésil, Lula revient au gouvernement. L'ancien président devient ministre d'État, chef de l'administration de celle qui lui a succédé, Dilma Rousseff. Avec cette nomination, Lula échappe à la menace d'un placement en détention brandi par la justice brésilienne. Il est en effet soupçonné de blanchiment et de corruption dans le scandale Petrobras. Retour en France avec la météo demain. Temps toujours perturbé sur la moitié sud, de la pluie en plaine et de la neige en montagne sur les Pyrénées et le Massif central. Au nord, un ciel variable et souvent ensoleillé. Les températures maximales toujours fraîches pour la saison, 10 à 13 degrés en général. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.